Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 15 février 2018.
Du lendemain de la Saint-Valentin.
Du lendemain de la veille, c'est Marie Lalande qui vous parle, avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique Guiroy.
Bonjour Marie, bonjour Yvan.
Bonjour Yvan Deslauriers.
Bonjour à vous deux.
Et bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour.
En régie.
Ben oui.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Moi, personnellement, rien.
Alors, elle a eu un silence.
Oui, alors on suivait ton regard, on ne savait pas...
Moi, je ne savais pas qui parlait en premier. Alors, allons-y, Monique.
Alors, nous nous transportons au Pérou.
Oui.
Alors, savez-vous ce qu'est un quipu?
Non, nous ne savons pas ce que c'est un quipu.
Un quipu, c'est un système de communication, des cordelettes que les Incas ont inventé. Alors, on va voir à quoi servaient ces artefacts et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir à ce sujet. Ensuite, en ce lendemain, comme vous le disiez, de la Saint-Valentin, on parlera du baiser. Alors, est-ce inné de s'embrasser? Depuis quand s'embrasse-t-on? Et plein d'autres petites
L'histoire
questions.
L'histoire du baiser.
Alors,
c'est intéressant.
Toujours, bien sûr, avec un fond de science.
Évidemment.
Ouais, un fond de sérieux.
Un fond de sérieux, pas sérieux. C'est ça, exactement.
Le baiser au sérieux.
Oui.
Oh. Et Yvan, de quoi tu nous parles?
Ben, moi, de mon côté, là, les trottoirs aujourd'hui sont pas mal. Mais depuis quelques jours, semaines, c'était pas fantastique.
Non.
Et... nous deux, Marie et moi, on a des mamans qui ont ils ont très peur à marcher sur les trottoirs.
Mm-hmm.
Elles sont âgées. Alors, je vous parle d'une activité physique pour aider les personnes âgées à se sentir plus sécuritaires dans des circonstances comme ça. Okay. Puis là, je laisse planer la chose.
Oui, oui, oui. On va être très attentive.
Et en deuxième intervention, je vous parle de la persévérance, mais pas scolaire. On est dans une époque olympique présentement, alors une persévérance olympique.
Ah, ça va être intéressant, ça.
Ah oui, ça va être intéressant.
Parfait.
Oui,
oui. Et Marie?
Et de mon côté, je vais vous parler de persévérance scolaire. Moi, c'est mon créneau. Et de motivation. D'abord, je vais vous présenter un dossier spécial sur la lecture, l'écriture et des gestes qui peuvent se transformer en plus. Et en seconde partie, on va se questionner à propos de la motivation et des systèmes de récompense. Est-ce que c'est efficace ou pas?
Donc, alors, les médailles.
Exemple. Oui, par exemple, ultimement.
Les
voilà.
Étoiles.
Et les étoiles, et les anges, et tout ça. Alors voilà, on plonge.
On commence-tu? Hein?
Oui. Alors, Monique, les quipus.
Les quipus,
voilà. Dites-nous tout sur les quipus.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un article d'Émilie Rocher pour les cahiers de sciences et vie de janvier 2018. Il s'intitule « Quipus, ils ont enfin leur pierre de rosette ». Peut-être que
ça,
vous...
Ça, on est dans un mot, là, hein, quipus.
Quipus, oui.
C'est pas qui...
Q-U-I-P-U.
OK.
Voilà. Et avec un S si c'est au pluriel. Mmh. Alors, on se demande peut-être ce qu'est une pierre de rosette.
Oui, oui.
Hein? Alors, c'est un fragment de stèle qui est gravé et qui vient de l'Égypte antique et qui porte trois versions d'un même texte. Et décrypter ces trois versions, nous permet de comprendre les hiéroglyphes.
Donc, alors, c'est comme un code secret.
C'est comme un code secret. Donc, on est en train, justement, de déchiffrer les quipus. Alors, des centaines de cordelettes, enroulées en elles-mêmes, dans un sens ou dans l'autre, nouées ou pas, brutes ou teintes, en laine ou en coton. Les quipus ont fasciné les conquistadors dès que ces derniers ont posé les yeux dessus et compris leur usage. L'immense empire inca que les Espagnols venaient de conquérir, donc au 16e siècle, et dont ils admiraient l'organisation sans faille, n'auraient donc eu d'autre écriture que ces cordelettes à nœuds? On ne le sait pas, mais c'est intéressant de découvrir ces cordelettes à nœuds. Donc, de fait, les chroniqueurs de l'époque mentionnaient leur utilisation pour enregistrer recensement de population, récoltes ou tribus versées. Certains suggéraient même qu'ils permettaient de noter des informations d'ordre plus historique. Hélas, aucune description précise de leur fonctionnement ne fut faite, si bien qu'après la chute des Incas en 1532, puis la disparition des Kipukamayok, ce sont des lettrés qui en maîtrisaient l'art si complexe, se perd peu à peu la compréhension des Kipus, du sens des Kipus, de l'usage des Kipus. Des centaines de milieux d'entre là, il n'en reste que 850. Depuis plus d'un siècle, des scientifiques s'échinent à les faire parler, mais seul jusqu'à présent, leur versant numérique a été décrypté. Alors, arrive l'anthropologue Sabine Ilan. Est-elle enfin en train de dénouer la situation?
De dénouer, toi.
Oui, c'est écrit comme ça.
Oui, hein, oui. J'ai le mot.
Mais il y a quelques belles trouvailles comme ça dans le texte que je n'ai pas changées. Mm-hmm. Alors, elle vient de trouver pour la première fois des informations phonétiques dans des Kipus restés alors jusqu'alors inconnus. Une avancée inédite, tout juste publiée, qui commence par une invitation en 2015 dans le petit village péruvien de San Juan de Colata, un petit village donc juché à 3000 mètres d'altitude. Et pour l'anthropologue, c'est une opportunité unique que l'accès à cette communauté qui lui donne accès à un coffre qui remonte à 1645 et dans lequel il y a, entre autres, deux Kipus. Mm-hmm. Alors, deux jours durant, sous la surveillance des responsables de ces archives sacrées, Madame Ilan va décrire et étudier les précieux Kipus à main nue, comme l'y engagent les villageois, pour mieux sentir leurs différences de texture. Après ce premier contact, il lui faudra 2 ans d'analyse pour commencer à comprendre l'importance de cette découverte. La structure générale des Kipus de Colata est similaire à celle des Kipus d'époque Inca, parce que je vous ai donné l'année 1645, mm-hmm. donc il y a quand même un petit décalage mm-hmm. dans le temps, c'est-à-dire donc avec une corde principale d'où partent des cordes secondaires. Donc pour le Kipu A, elle dénombre 288 cordes, et pour le B, 199. Mais ces deux modèles sont en laine et très colorés, alors que 80% des Kipus sont en coton blanc et ne comportent aucun des nœuds si caractéristiques des Kipus blancs, ceux que l'on retrouve d'ailleurs dans les musées à l'heure actuelle, mm-hmm. ceux colorés ayant été rangés mm-hmm. parce que jugés atypiques. Donc, l'un et l'autre se jugent atypiques. Oui. Vous voyez un petit peu le oui. scénario. Que pouvaient receler des artefacts aussi atypiques? Pour les habitants de Colata, rien de moins que leur identité. Les anciens rapportent que les Kipus avaient été créés comme pour courrier lors des guerres menées contre les Espagnols pour le compte des Incas au 18e siècle. Dans ces Kipus, dort donc pour les villageois un pan de leur passé auquel eux-mêmes ne peuvent plus accéder. Donc, si information narrative il devait y avoir, comment pouvait-elle être retranscrite? Avec l'aide des bergers, Madame Ilan a identifié les animaux dont les poils ont servi à créer la laine des Kipus. Mm-hmm. Bon, je vous épargne l'énumération, mais c'est en lien avec les lamas, les vicuñas, etc. 14 couleurs qui se distinguent également. Je ne vous les énumérerai mm-hmm. pas non plus. Et le troisième, c'est le sens des torsions. Soit elles s'enroulent vers la droite ou vers la gauche. Or, si on combine ces trois facteurs, on obtient par exemple alpaga, jaune, torsion vers la gauche. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, on a rouge. Ah, tiens, on commence par la couleur. Vigogne, le poil d'animal, torsion vers la gauche. Donc, mm-hmm. ça a un autre sens. Ce qui pouvait servir à côté des signes d'un genre nouveau pour notre mentalité occidentale. Elle en a identifié 95 de ces symboles. Ce nombre est donc trop élevé pour une écriture alphabétique, mais il entre dans la gamme des écritures logosyllabiques, qui contient jusqu'à 800 symboles pour coder mots ou syllabes. Se posait ensuite la question du type de codage utilisé. Alors, si ces quipu étaient bien logosyllabiques, ils devaient employer le principe du rébus, c'est-à-dire le nom d'un élément, ici la couleur ou le nom de l'animal, qui est utilisé pour noter autre chose. Alors, les Andins, par exemple, maîtrisaient très bien le procédé. Pour Jésus, bien, c'était représenté par une touffe d'herbe et le son était « ikou ». Alors, bon, je vous épargne tous les détails à ce sujet, mais on voit qu'il y a un système très clair là, qui se met en place. Donc, pour Sabine Ilan, les quipu de Kolata pourraient être en fait les premiers quipu narratifs, donc qui racontent une histoire et connue au monde. Pour les lire, il suffirait de trouver la clé reliant chaque symbole, association au son sous-jacent. La chercheuse, elle est bien consciente qu'elle a un travail énorme à faire, mais elle est désormais persuadée que les quipu seront lus de son vivant. Oui?
Moi, je pense qu'il y a un quipu qui explique comment lire les quipu.
Ah, peut-être. C'est sûrement juste. Et qu'ils révéleront bien que les colonnes de chiffres, bien que ces dernières soient fondamentales pour comprendre l'organisation de l'Empire Inca, sont essentielles pour comprendre le volet narratif. Donc, l'anthropologue continue ses prospections dans les Andes et l'analyse de ces précieux monstres bigarrés, tout en soufflant qu'il serait intéressant, comme je l'évoquais tout à l'heure, suite à ses premiers résultats, de jeter un œil à certaines des anomalies des quipu rejetés qu'on a reléguées dans les réserves des musées. Alors, c'était un article d'Émilie Rocher pour la revue Les Cahiers de Science et Vie de janvier 2018.
Alors, un dossier spécial sur la lecture et l'écriture, c'est un texte qui a été publié le 12 février sur le site du CTREQ, c'est le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, et il n'y a malheureusement pas d'auteur spécifié. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, les JPS, qui se tiennent actuellement du 12 au 16 février, le CTREQ se joint au thème « Vos gestes, un plus pour la réussite » et vous propose des gestes concrets, parfois simples, parfois de plus grande ampleur, mais qui ont tous le même objectif, aider la persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves québécois. La lecture et l'écriture sont des compétences grandement sollicitées dans le milieu scolaire. Résolution d'un problème dans la classe de mathématiques, explication d'un phénomène naturel dans la classe de sciences ou compréhension des règlements dans le cours d'éducation physique, ces deux compétences sont souvent nécessaires, même dans les plus simples apprentissages. Malheureusement, pour ceux qui éprouvent des difficultés, la lecture et l'écriture sont tout aussi importantes dans le quotidien, que ce soit pour écrire un courriel, lire le journal ou tout simplement naviguer sur le web. Il est donc primordial de trouver des solutions afin d'aider les jeunes à développer des compétences solides dans ce qui semble être le talon d'Achille d'un grand nombre d'entre eux. Saviez-vous que près du tiers des jeunes présentent des difficultés en lecture ou en écriture?
Ça fait très mal.
Oui. Saviez-vous qu'un adulte québécois sur 5 éprouve des difficultés en lecture ou en écriture? Ça aussi, ça fait mal.
Oui.
Il me semble que
c'est assez...
C'est 1 sur 5.
Inimaginable.
Ouais. Des fois, on dit 1 sur 4, mais ça joue dans ces zones-là.
Oui, tout à fait. Oui.
Et qu'au Québec, 1 million d'adultes sont analphabètes. Voici donc quelques idées pour que vos
mais
gestes... Mais
ils peuvent être fonctionnels.
Hein? Oui, fonctionnels, mais quand même font partie de la catégorie
oui,
des analphabètes.
Tout à fait.
Donc, quelques idées pour que nos gestes se transforment en plus pour la réussite éducative et la persévérance scolaire des jeunes. Pour en apprendre davantage sur les gestes proposés, il y a des hyperliens qui sont présentés plus loin dans le texte et qui permettent de poursuivre la lecture. À la fin, je vous rappellerai l'adresse pour trouver le texte et avoir accès à ces hyperliens. Chaque geste est tiré d'articles, de sites web ou d'outils pédagogiques qui vous permettront de comprendre les bienfaits de telles actions. Alors, ce qu'on peut faire à la maison, d'abord, intégrer dans l'horaire de la semaine un moment de lecture en famille. Ah, ici, un hyperlien qui nous mène vers un site qui nous donne des exemples de ce qu'on peut faire. Impliquer l'enfant ou l'adolescent dans les tâches quotidiennes pour qu'il ait conscience de l'importance de la lecture et de l'écriture dans différentes situations. Faire une liste d'épicerie, lire le courrier, etc. Ayez toujours des livres à portée de main pour que l'enfant ou l'adolescent puisse lire quand il le désire. N'hésitez pas à visiter les bibliothèques pour varier vos lectures. Et récupérez les dessins de l'enfant et transformez-les en un livre d'histoire. Et là, ici, encore une fois, il y a des hyperliens à chaque fois. Mm-hmm. Et dans les deux derniers, les deux hyperliens nous dirigent vers le tout nouveau site La Clé, C-L-E-F, qui veut dire « Compter, lire, écrire en famille ». Je vous ai parlé de ça la semaine dernière.
Mm-hmm. Oui.
Qui propose aux parents des vidéos, des textes, des comment faire utiles et agréables. Ce qu'on peut faire à l'école, co-écrivez de belles histoires avec les enfants pour développer le plaisir d'écrire et l'envie de lire tout en répondant aux besoins de chacun. Travaillez les inférences en lecture pour développer le plaisir de lire dès le préscolaire. Quand on parle d'inférences, on parle d'informations qui n'est pas toute crue indiquée dans le texte, mais non, c'est ce qu'on appelle lire entre les lignes.
Oui, oui.
Inviter les enfants à écrire dès le préscolaire pour faciliter le décodage en lecture. Et encore une fois, il y a des hyperliens vers chacun qui nous présente des comment faire. Utiliser l'approche abracadabra pour enseigner les stratégies de lecture et d'écriture. Ce qu'on peut faire dans la communauté maintenant, créer des clubs de lecture, des cercles littéraires et des espaces virtuels dédiés à la lecture. Et pour l'exemple de l'hyperlien qui est proposé ici, c'est vers le projet « Lire pour le plaisir », qui est vraiment un projet intéressant. Pour en apprendre davantage sur les initiatives en lien avec la persévérance scolaire, qui a lieu donc cette semaine, c'est les journées de la persévérance scolaire. Donc, ce qui est fait dans chacune des régions, on peut consulter le site www.persévérancescolaire.com, sans accent. Et donc, c'était un texte publié le 12 février sur le texte du CTREQ. Yvan, t'as levé la main comme dans les classes, t'as une question.
Oui, bien, il y a quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Tu parles de faire la lecture en famille à un moment donné. Puis juste avant, tu as dit qu'il y a 1 million de Québécois qui sont analphabètes.
Oui.
Puis là, je me dis, il y a un problème, là.
Tu peux, oui, parce si que t'es les pas parents capable vont lire, pas stimuler. Pas,
oui, mais il y a dans chacune des régions, dans les centres communautaires, parfois dans les écoles, il y a des ateliers, dans les bibliothèques, il y a des ateliers qui sont offerts, même aux parents qui ne savent pas lire, pour pouvoir appréhender un livre et accompagner un enfant dans ce qu'on peut faire avec ce qu'on a comme moyen. Alors oui, il y a des moyens de faire et d'aller plus loin pour cultiver la persévérance scolaire. Voilà.
Merci. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. 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 Ocean child.
Sing the song.
cannot sing my heart. I can only speak my mind, oh yeah. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing a song of love.
Et voilà, c'était la chanson Julia de John Lennon.
C'était très beau. Mm-hmm. Alors donc, Yvan, tu nous parles de personnes âgées et de ce qu'elles peuvent faire pour garder
pour
l'équilibre.
Éviter...
Pour garder l'équilibre.
Oui, c'est ça. C'est un article pour nos mères.
Mm-hmm. Ben, peut-être pour nous aussi un peu.
Éventuellement. Ça s'intitule...
Dépendant des journées.
Oui, c'est ça. Personnes âgées. Oui, on va voir les arts voir. Personnes âgées, moins de bobos grâce au judo.
Ah, oh, wow!
C'est un article de Jean-Luc Laurie dans le cahier Santé de la presse d'hier, pas d'hier, d'avant-hier, le 13 février 2018. En hiver, se déplacer sur une surface glacée, comme on en a beaucoup sur nos trottoirs, peut représenter un exercice périlleux pour les aînés qui doivent souvent composer avec un manque d'équilibre. Là, gardez dans la tête, aînés. Le club de judo de Saint-Hyacinthe a mis sur pied un programme destiné aux 50 ans et plus pour éviter qu'une chute malencontreuse ne provoque de lourds traumatismes. Le premier enseignement au judo est d'apprendre à chuter, indique Louis Graveline, qui cumule plus de 50 ans d'expérience comme entraîneur. Je fais un parallèle entre un enfant et une personne âgée. Dans le premier cas, le tonus musculaire est en développement et dans le second, il a sévèrement diminué. Pour bâtir son cours, Louis Graveline s'est inspiré du livre « Comment prévenir et se protéger lors d'une chute » écrit par l'ancien directeur technique du club de judo de l'Université de Sherbrooke, Benoît Séguin. Au programme depuis l'an dernier, le cours a attiré 9 participants âgés de 64 à 90 ans lors de la session d'automne, à raison d'une heure par semaine. Les exercices consistent entre autres à courir dans des cerceaux, à marcher à reculons en tenant les mains d'un partenaire et à utiliser un ballon d'exercice en appui sur un mur. L'important est de renforcer l'ensemble des muscles comme la partie abdominale, les muscles stabilisateurs et ceux du cou, explique Louis Graveline, qui est assisté dans ce cours par Bruno Janssen, un judoka de 71 printemps. Je dis à mes élèves, nous dit Louis Graveline, de progresser lentement à l'image de grains de riz déposés un à un dans un bol.
C'est une belle image.
Oui, c'est une très belle image.
Lors du passage du journal La Presse, certains participants ont admis avoir été stressés lors de la première leçon, se croyant incapables d'effectuer les exercices proposés. D'ailleurs, plusieurs gardent de mauvais souvenirs de chutes ayant provoqué des blessures. Grâce à ce cours, j'ai développé beaucoup d'équilibre. Pendant plus de 70 ans, j'ai été une adepte de la sédentarité intensive.
C'est un nouveau sport.
Oui,
ça.
Oui. C'est un sport extrême.
Oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on va aux Olympiques avec ça?
Souligne Louise Donjou.
On les garde.
Mesdames.
Oui. Un peu d'ordre.
Il y a un monsieur qui lit ici. Là.
Oui, on s'excuse.
Souligne Louise Donjou, âgée de 73 ans. Guy Desrosiers ne fait pas ses 90 ans lorsqu'on l'observe pratiquer avec aisance un exercice sur le tatami. Je trouve que ce cours est adapté à nos besoins. J'ai déjà chuté à quelques reprises, je me suis blessé à l'œil lors d'une perte d'équilibre. Comme je vis seul chez moi, j'ai toujours la crainte de tomber, nous confie M. Desrosiers. Je recommande ce cours sans hésiter parce que nos hivers sont longs. Après la session, je me suis senti plus en confiance en cas de chute et moins inquiète. » Dit pour sa part Céline Chartrand, une gazelle de 75 ans, comme la surnomme Louis Graveline. Les fédérations provinciales et nationales de ce sport de combat semblent convaincues de la nécessité d'offrir un tel cours pour pallier la perte d'équilibre attribuable au vieillissement. Le club de Saint-Hyacinthe a reçu la visite d'un représentant de Judo Québec. Judo Canada a aussi manifesté son intérêt. Judo Québec croit fermement que cet apprentissage peut faire une énorme différence dans la qualité de vie d'une personne âgée. Nous encourageons tous nos clubs à ajouter cette offre de service. Je félicite le club de judo de Saint-Hyacinthe d'être précurseur dans ce domaine, affirme Jean-François Marceau, directeur général de Judo Québec. Le club de judo de Saint-Georges offre lui aussi un cours sur la prévention des chutes. Nous nous sommes référés aux exercices du livre de Benoît Séguin. J'intègre dans mon cours appelé « Judo adapté » des aînés ainsi qu'une clientèle ayant des limitations physiques, précise Martin Beaulieu, directeur technique du club de judo de Saint-Georges. Au Québec, les clubs de judo de Lac-Mégantic, Trois-Rivières et Gaspé devraient emboîter le pas à ceux de Saint-Hyacinthe et de Saint-Georges. Alors, c'était personne âgée, moins de bobos, grâce au judo, dans la presse du 13 février, sous la plume de Jean-Luc Laurie.
Est-ce qu'on aurait le temps pour un petit mot d'enfant? Oui.
Oh, oui.
Alors, perpendiculaire, selon Bixante, qui a 8 ans, c'est une ligne droite qui se met à tourner tout d'un coup. Détournement de ligne droite.
Dans des cours de mathématiques, on ne l'avait pas, celle-là.
Est-ce qu'on a le temps pour une très, très petite brève?
Oui, c'est parmi mes conseils pour initier nos enfants au ski. On fait ça près de la maison lors des premières sorties de ski. On choisit une station qui n'est pas trop loin de la maison. Ça nous évitera bien des frustrations si notre débutant veut cesser de skier après une heure.
Mmh. Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Après la pause, on vous parle de persévérance, de récompense et du baiser. À tout de suite.
Oh oui!
Donne-moi ta bouche. Ouais, on n'est pas peur de moi. Ouais, on n'est pas peur. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien, donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur. Va pas tout gâcher pour un seul baiser. Écoute, je vais t'expliquer mon amour, ce qui s'est passé l'autre jour. Sans aucun détour, tu ne devrais pas écouter ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour. Je t'aimerai toujours. Donne-moi ta bouche. Ouais, on n'est pas peur de moi. Ouais, on n'est pas peur. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'embrasser. La 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 la. Ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour. Je t'aimerai toujours. Donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur. Crois-moi.
pour un seul baiser. Non, pour un seul baiser. Non, pour un seul baiser.
Donne-moi ta bouche, Pierre Lalonde. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher.
Oui, il fallait voir la chorégraphie ici en studio, c'était très joli.
Tout le monde dansait, tout le monde chantait.
Oh oui, c'était magnifique. Oui, oui, oui. Alors, Monique,
on parle pas de quelle époque on est né, nous autres.
Monique, vous nous parlez du baiser.
Eh bien, sous la plume d'Alain Labelle pour le site Info-Radio Canada, l'édition du 14 février 2018. Alors, pourquoi les humains s'embrassent-ils? Qu'il s'agisse d'un acte informel de salutation ou d'un geste romantique intense, le baiser fait partie des communications humaines dans toutes les langues depuis des milliers d'années. Mais quelles sont ses origines et à quoi sert-il? Alors, il y a un professeur d'anthropologie, William R. Jankowiak, et ses collègues de l'Université du Nevada à Las Vegas aux États-Unis qui s'y sont intéressés dans des travaux qu'ils ont publiés en 2015. Alors, ces chercheurs ont établi que 46 % des 168 cultures humaines qu'ils ont étudiées pratiquaient le baiser au sens romantique du terme, soit le contact lèvre sur lèvre dans un couple.
Donc, c'est presque la moitié. 50 % oui, presque.
Oui, c'est ça. Ce qui représente une vaste majorité des humains. Mm-hmm. En fait, environ 90 %.
Bon.
Puisque ce type de baiser est observé dans les cultures les plus répandues dans le monde. Ces travaux montrent aussi qu'il existe une forte corrélation entre la fréquence du baiser romantique et la complexité d'une société. Ainsi, plus une culture est complexe sur le plan social, plus les baisers romantiques sont fréquents. Alors, les sociétés actuelles qui sont encore composées de chasseurs-cueilleurs ne montrent aucune inclinaison pour le baiser. En fait, certaines, comme les Mihi Naku au Brésil, le trouvent même répugnant.
Oh.
Alors, notre anthropologue, Jankowiak, estime donc que les baisers romantiques ne sont pas un comportement humain universel, comme le veut la croyance populaire. Ils seraient plutôt, selon lui, un produit des sociétés occidentales transmises d'une génération à l'autre. D'autres travaux, publiés en 2013 et réalisés cette fois par des psychologues évolutionnistes, dont Raphaël Wlodarski et Robin Dunbar de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, tendent à confirmer que le baiser est une invention relativement récente dans l'évolution humaine. Ces chercheurs ont fouillé l'histoire humaine afin de trouver des preuves de sa présence et de son évolution. Résultat, la plus vieille preuve qu'ils ont trouvée remonte à 3500 ans.
Oh.
L'action d'embrasser est décrite dans le Véda, qui est un ensemble de textes qui, selon la tradition indienne, a été révélé aux sages indiens. Le baiser y est décrit comme le fait d'inhaler l'âme de l'autre.
Oh là!
Ah, c'est quelque chose! Pour leur part, certains hiéroglyphes égyptiens représentent des personnes proches les unes des autres sans pour autant que leurs lèvres se touchent. Nos plus proches cousins dans le règne animal, les chimpanzés et les bonobos, s'embrassent aussi. Alors maintenant, c'est un primatologue qui nous parle, Franz de Waal de l'Université Emory aux États-Unis. Le baiser représente en quelque sorte une forme de réconciliation qui est plus commune chez les mâles que chez les femelles. Peut-être parce qu'on se dispute moins, en fait. Il ne serait donc pas... Yvan me regarde. Il ne serait donc pas un comportement romantique pour les chimpanzés. On voit, par exemple, chez les humains, lorsque deux humains se rencontrent, ben, ils se serrent la main et s'embrassent sur les joues. Il n'existe aucune explication qui se détache du lot pour expliquer les origines du baiser. Mais certains anthropologues avancent que c'est un comportement appris qui remonte aux premiers ancêtres humains. À l'époque, les mères mâchaient la nourriture et la passaient de leur bouche à celle de leur bébé. Mm-hmm. Les mères auraient continué à appuyer leurs lèvres sur celles de leurs enfants, sevrés, ou sur leurs joues, alors pour les réconforter ou pour montrer l'importance de leur lien. Le fait que certaines cultures humaines ne s'embrassent pas tend à confirmer la nature apprise du baiser. D'autres pense que le baiser est plutôt un comportement inné. Il cite l'exemple, encore une fois, des bonobos qui ne manquent pas une occasion de s'embrasser pour se réconcilier, se réconforter ou sans aucune autre raison, un peu comme l'humain. Alors, actuellement, l'une des théories les plus répandues est celle que cette action est associée à la senteur et aux phéromones. Le phéromone est une substance émise par un animal, j'ajouterais, ou humain, et destinée à fournir de l'info à ses congénères. Le fait de s'approcher d'un partenaire permet d'échanger des informations biologiques entre les personnes. Des informations importantes pour les femmes qui préféreront inconsciemment le parfum des hommes dont les gènes associés au système immunitaire sont différents des leurs. Parce que le système immunitaire sera plus fort à ce moment-là et donc de meilleures chances de survie. C'est complètement fou, hein? Les baisers ne sont qu'un moyen...
C'est un peu profiteur, ça!
Attends. Les baisers ne sont qu'un moyen culturellement acceptable de se rapprocher suffisamment d'une autre personne pour détecter les phéromones. La plupart des humains se satisfont d'une explication très large du rôle du baiser. Les humains s'embrassent parce qu'ils se sentent bien et pour accroître l'excitation, notamment pendant les préliminaires. Les lèvres et les langues sont pleines de terminaisons nerveuses, ce qui aide à intensifier toutes ces sensations associées au plaisir amoureux. En outre, ils serviraient aussi à maintenir la stabilité d'une relation. Donc, en conclusion, embrasser servirait à trouver un partenaire. Et, une fois trouvé, il serait le meilleur moyen de le garder. D'ailleurs, pour les hommes ou pour les femmes, le baiser ne semble pas avoir la même signification. C'est ce que conclut, cette fois-ci, une biologiste, Cheryl Kirschenbaum de l'Université du Texas, après de nombreux travaux sur le sens du baiser. Les hommes auraient plus tendance à considérer le baiser comme un moyen d'accéder à une relation sexuelle, alors que les femmes donnent plus d'importance au geste lui-même. Alors, c'était un texte d'Alain Labelle pour le site Info Radio-Canada, édition du 14 février 2020.
Embrassez-vous, embrassez-vous.
Oui.
Alors, on parle de système de récompense.
Est-ce qu'il y a un lien, c'est ça?
On pourrait aller là, effectivement.
Tu vas parler de persévérance aussi?
Évidemment.
Est-ce qu'il y a un lien?
De motivation.
D'Optibéco.
Alors, le titre de l'article, c'est « Les systèmes de récompense, utiles ou futiles? » C'est un texte d'Elisabeth Boily, qui est orthopédagogue, et qui a été publié, l'article, sur le site aidersonenfant.com le 22 décembre 2017. Friandises, retenues, privilèges et avertissements figurent parmi les nombreux incitatifs utilisés par les parents et les professeurs pour motiver les enfants. Que dit la recherche à propos de leur efficacité? Les parents et les enseignants sont nombreux à utiliser des systèmes de récompense et des punitions pour motiver les enfants. Est-ce que ces systèmes motivent réellement les élèves? Et donc, c'est ce qu'on tente de faire dans cet article. On tente de répondre à cette épineuse question. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de faire la distinction entre deux catégories de motivation. D'abord, la motivation qui se définit comme étant l'ensemble des forces internes et externes qui poussent l'élève à produire un comportement. Les forces internes peuvent être le plaisir ou l'importance qu'on accorde à l'activité. Les forces externes réfèrent aux récompenses et aux punitions. Un enfant qui est motivé par des forces internes a une motivation intrinsèque. Il s'engage dans son travail de façon volontaire, par intérêt ou par plaisir, ou encore parce qu'il anticipe son utilité. L'enfant qui est motivé de manière intrinsèque aime apprendre de nouvelles choses et développer ses compétences. Sa récompense réside dans l'accomplissement de l'activité elle-même. À l'opposé, un enfant peut être motivé par des forces externes et donc avoir une motivation extrinsèque. Dans ce cas, l'enfant n'effectue pas l'activité pour le plaisir, mais pour obtenir quelque chose d'agréable, une récompense, ou pour éviter quelque chose de déplaisant, une punition. On peut donc voir que des forces externes, comme des récompenses et les punitions, peuvent être utilisées pour motiver les enfants. Est-ce que, donc, ces techniques sont efficaces? Darvaux et Viau expliquent que pour des enfants déjà motivés, les récompenses et les punitions ne sont pas nécessaires et peuvent même nuire dans certains cas. Elles ont un effet positif uniquement à court terme et nuisent à la longue à la motivation. Voici quelques effets négatifs que ces systèmes peuvent engendrer. Selon ces auteurs, on parle de Darvaux et Viau. Les récompenses et les punitions peuvent amener certains enfants à travailler non plus pour apprendre ou pour le plaisir, mais plutôt pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Les récompenses et les punitions créent parfois un trop grand désir de réussir, ce qui peut augmenter le niveau de stress des enfants. Ces systèmes ne tiennent pas toujours compte des efforts et des progrès réalisés par les enfants. Les règles qui régissent ces systèmes peuvent prêter à des interprétations différentes de la part des enfants et des adultes et ainsi mener à des déceptions. Les systèmes de récompense peuvent contribuer à détourner l'attention de certains élèves en les amenant à prendre le moins de risques possible, de peur de ne pas avoir la note maximale et de ne pas obtenir la récompense. Ces systèmes peuvent envoyer des messages contradictoires aux enfants. Par exemple, un parent pourrait donner comme récompense un congé de devoir à son enfant, ce qui renforcerait l'idée que les devoirs sont des tâches désagréables. Ou un parent pourrait ajouter une tâche scolaire comme punition à son enfant, par exemple copier des phrases. Et ce dernier pourrait faire l'association que l'activité d'apprentissage est une punition, donc une tâche désagréable. En bref, les élèves qui possèdent déjà une motivation intrinsèque n'ont pas besoin d'un système de récompense et de punition pour être encouragés dans leurs apprentissages. Darvaux et Viau rappellent que le fait de féliciter ses enfants verbalement, peut-être avec un bisou, suffirait à les encourager. D'ailleurs, des études ont révélé que les commentaires et les encouragements qui informent l'élève sur la qualité de ses apprentissages demeurent ceux qui favorisent le plus la motivation intrinsèque de l'élève. L'encouragement et la reconnaissance du travail accompli constituent des stratégies beaucoup plus efficaces pour développer le goût d'apprendre. De plus, pour maintenir la motivation de façon durable, des recherches auraient démontré que le plaisir serait un atout puissant pour que l'enfant ait envie d'apprendre. Pour un enfant démotivé, l'encouragement verbal ne se révélera pas, peut-être pas suffisant. Dans le cas où l'enfant ne s'engage pas et ne persévère pas dans ses travaux, l'utilisation de récompenses et de punitions peut s'avérer utile et efficace. Le cas échéant, ce système de récompenses et de punitions doit amener l'enfant à développer un sentiment de réussite et de contrôle sur ses apprentissages. Lorsque la motivation revient, on peut retirer progressivement les punitions et les récompenses. Par exemple, des exemples de récompenses efficaces dans ces cas-là, laisser son enfant choisir une activité qu'il pourra réaliser avec ses parents. Par exemple, un jeu de société, un bricolage, une expérience, un jeu à l'extérieur, etc. Je vais tousser un peu. Si la voix est revenue, ça peut être une sortie, par exemple. Ça peut être l'achat d'une bande dessinée, d'un livre. Alors, j'ai trouvé que c'était, dans le contexte des journées de la persévérance scolaire, un texte pertinent, texte d'Elisabeth Boilly, publié sur le site aidersonenfant.com le 22 décembre dernier. Alors, Yvan, on parle de persévérance, mais dans un autre contexte maintenant.
Oui, mais on va voir, il y a des thèmes communs. Ouais. Ça s'appelle « La persévérance entre ténacité et résilience ». C'est un texte de Mylène Paquette, qu'on connaît bien, dans le magazine Espace de janvier 2018. Et c'est un texte que j'avais depuis déjà quelques semaines, mais j'attendais les Jeux olympiques. Pyeongchang!
Voilà!
Où le Canada a gagné 5-1 contre la Suisse
au hockey masculin. Tu l'annonces en direct maintenant!
Voilà!
Petite fantaisie. Lors des derniers Jeux olympiques d'hiver, J'avais à peine retrouvé mon équilibre à la suite de ma traversée de l'Atlantique à la rame que j'avais déjà les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur pour vivre l'événement en direct. Depuis des décennies, les Jeux olympiques fascinent, en tout cas, ils me fascinent moi. Ils représentent le summum du succès et de la performance et nous incitent tous, athlètes ou non, à aller au bout de nous-mêmes. Ils nous amènent aussi à nous poser plusieurs questions. Ainsi, on sait que la réussite dépend de plusieurs facteurs. Mais lequel est vraiment essentiel? Pour que tant d'athlètes amateurs puissent s'améliorer et atteindre leurs objectifs, il doit bien y avoir une recette. Mais laquelle? En fait, les qualités que partagent tous ces sportifs sont sans contredit la détermination et la persévérance. Ce qui nous amène à nous demander, comment devient-on persévérant?
Ben voilà.
Persévérer, c'est être assidu et demeurer constant dans la réalisation d'un objectif précis, souvent difficile à atteindre. C'est l'art de demeurer ferme dans sa façon d'agir et de penser, malgré les embûches. C'est persister, voire s'acharner en vue d'atteindre son but.
Se lever 3 matins par semaine à 6 heures.
Oui.
Pour s'entraîner.
Oui. Entre autres choses. Et savoir que c'est pour réaliser quelque chose. Et pas nécessairement avoir une récompense.
Oui.
De meilleurs abdos pour ne pas tomber.
Entre autres, mais c'est aussi, je ne sais pas moi, pour le plaisir de faire du vélo, etc.
Bien sûr.
J'offre beaucoup, pas moi, mais Mylène Paquette, offre beaucoup de conférences dans les écoles primaires et secondaires. Et s'il y a un terme à la mode, Marie, dans ces milieux, c'est bien la persévérance. Je me souviens du discours voulant que, du temps où j'étais petite, la persévérance soit la clé du succès. Toujours un peu frustré de ne pas vraiment comprendre le sens du mot lui-même, je me questionnais souvent à savoir si c'était un trait de personnalité, une qualité ou simplement une aptitude que l'on développe avec le temps. Naît-on avec une certaine dose de persévérance? Peut-on l'enrichir graduellement au cours de sa vie? Ou croît-elle avec l'usage?
C'est des bonnes questions.
Sinon, comment devient-on persévérant? Est-ce qu'entendre constamment des adultes nous encourager à le devenir permet de développer cette aptitude? Peut-être que de rencontrer quelqu'un de persévérant nous influence et nous aide à l'imiter. On répète souvent que la persévérance demande de la discipline, des efforts, de la constance et de la détermination. Et souvent, la détermination frise l'entêtement, l'obstination. S'obstiner. Ne pas céder à la tentation d'abandonner. En fait, la persévérance résulte d'un subtil mélange entre la ténacité et la résilience. Durant mes aventures de navigation, j'ai souvent entendu les membres de mon équipe au sol ou ma famille me dire de tenir bon, de ne pas lâcher. Ne pas lâcher, c'est garder le cap malgré l'adversité, garder le contrôle de la moindre des choses qu'on peut maîtriser. Maintenir à flot notre désir de continuer. Au centre de l'océan, au milieu des tempêtes et des vagues de 12 mètres, il m'a été bien plus facile de constater que tout ce sur quoi je pouvais exercer un contrôle était à l'intérieur de moi et non pas à l'extérieur. Ma grande aventure m'a permis de réaliser que les seules choses sur lesquelles je peux avoir de l'ascendant demeurent mon comportement, mes pensées, mes agissements et par-dessus tout, mon attitude. Persévérer, c'est continuer contre vents et marées avec la meilleure attitude qui soit. Nourrir une belle attitude permet de soutenir une situation difficile sans faiblir intérieurement. Bien qu'on ne doive jamais abandonner sa meilleure attitude, réussir demande aussi de lâcher prise, au moins un peu. Antonyme de l'entêtement, le lâcher-prise permet de laisser tomber au bon moment, de s'économiser, de se recentrer, de demeurer positif dans l'adversité. La résilience, un terme à la mode emprunté à la physique des éléments, décrit l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. C'est, en d'autres mots, la capacité qu'on a de retomber sur nos pieds après un choc, une défaite, un abandon. Je suis d'avis que pour atteindre le succès, on doit certes persévérer, mais on doit aussi participer avec la meilleure attitude qui soit, même quand tout est joué d'avance. Parce que, comme le disait Pierre de Coubertin lui-même, l'important c'est de participer. Et participer commence à l'intérieur de soi, en animant sa flamme pour ses passions, qu'elle soit en pleine nature, sur un circuit de ski acrobatique ou dans un aréna froid. Ce qui est inspirant chez les athlètes des Jeux, ce sont leurs histoires et leurs combats personnels, mais aussi de savoir comment, malgré l'adversité qui s'est présentée à eux, ils ont pu vivre leur passion jusqu'au bout d'eux-mêmes. Que ces Jeux vous insufflent une volonté d'entreprendre et de poursuivre quelque chose de significatif pour vous, avec ténacité, détermination et un peu de lâcher prise, là où il en faut.
Oh, c'est formidable, hein?
Alors, c'était La persévérance entre ténacité et résilience, écrit par Mylène Paquette dans le magazine Espace.
Très inspirant.
Oui, hein?
Alors, Monique,
oui.
Le mot « questionner » nous questionne.
Oui, alors c'est une capsule, bien sûr, de M. Guy Bertrand. Elle ne m'appartient pas. On lui remet les crédits. Une chose peut-elle nous questionner? La locution populaire. Alors, la locution populaire, ça me questionne, est abusive.
Oui.
On peut se questionner sur quelque chose, c'est-à-dire se poser des questions, s'interroger sur quelque chose. En revanche, une chose ne peut pas nous questionner. Par exemple, on ne dira pas « quand on voit ça, ça nous questionne ». On dira plutôt « quand on voit ça, on s'interroge,
on se questionne
ou on se pose des questions ».
Voilà.
Alors, mesdames et messieurs, attention.
Merci d'avoir rétabli les faits. Yvan.
Alors, un petit article assez court. Des vélos en bois de fût à whisky. Le design des beaux vélos vous enivre? Allez jeter un coup d'œil sur la dernière mouture de Renovo Hardwood Bicycles. Ce manufacturier de Portland en Oregon se spécialise dans la fabrication à la main de vélos en bois, plus durables et même plus beaux que les vélos traditionnels. À la suite d'une association avec la distillerie écossaise Glenmorangie, Renovo a récemment lancé le Glenmorangie Original, un vélo dont le cadre est fabriqué à partir de fûts de chêne qui ont préalablement servi au vieillissement du whisky. Mm. Et le résultat est un véritable régal pour les yeux. Côté composants, ce vélo est bien équipé des freins à disque hydraulique, une fourche en carbone, une transmission Shimano. Sur la balance, il pèse à peine 9,84 kg et des pneus de haute performance. Mais il peut accueillir des pneus plus pour des gens qui font du vélo de randonnée. C'est donc un vélo racé qui peut supporter n'importe quelle aventure sur les routes les plus rugueuses. Si vous désirez l'acquérir, faites vite. À peine 50 modèles sont fabriqués et ils seront vendus pour la bagatelle de 8 679 $.
Oh mon Dieu, d'accord.
Mais il y a un Québécois qui fait, un Montréalais qui fait des bicyclettes en bambou. En bambou,
oui.
Je me mets là-dessus.
Vas-y.
Alors, est-ce qu'on a des petits, des petites brèves sur le baiser?
Sur le baiser, la philamatologie, c'est la science qui étudie le baiser et plus largement les activités labiales.
La philamatologie.
Est-ce qu'il y a un baccalauréat là-dedans?
Je ne sais pas, pas encore. Le record du monde du plus long baiser a été attribué à un couple thaïlandais, pas moins de 58 heures, 35 minutes et 58 secondes.
Mon Dieu, c'est long, longtemps, ça?
Est-ce qu'on se passait de la nourriture?
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils devaient être usés, en tout cas.
Oh, c'est formidable. Alors, moi, je termine avec un mot d'enfant. Le baiser, selon Léonie, 8 ans, c'est un bisou où on bave dans la bouche du garçon.
Oh, mon Dieu! Eh bien, je pourrais dire qu'il y a justement 80 à 100 millions de bactéries que l'on passe d'une personne à l'autre à travers un baiser.
Donc, c'est un vaccin.
Donc, c'est un vaccin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier pour les liens musicaux et la mise en onde. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci, chers collaborateurs, Yvan, ton nom, Monique.
Oui.
On vous retrouve la semaine prochaine. Au plaisir.